Sarah Kaufman est ici avec nous à Agora aujourd'hui pour un livre dont le titre est « Rue ordinaire, rue là-bas ». L'éditeur est Galilée. Et ce livre, c'est une bonne surprise, une heureuse surprise pour moi en tout cas, parce que Sarah Kaufman, je ne connais pas très très bien ce qu'elle écrit, mais je connais un petit peu tout de même. J'ai feuilleté, j'ai même lu certains de ses livres. Ils sont très forts, très puissants. Ce sont des livres de psychanalyse, et de philosophie, en particulier sur Nietzsche. J'en cite quelques-uns, les deux derniers, qui sont de gros volumes, Explosion 1 et Explosion 2, ce sont des ouvrages très, très savants sur Ex Homo de Nietzsche. Alors je me suis dit, bon, ben voilà, une philosophe, une habituée, une rouée de la psychanalyse qui se met à écrire ses mémoires, sa propre vie, et elle va encore entrelarder tout son discours de considération de tous ordres, et dans le jargon habituel, non pas que vous écriviez de façon jargonnante, mais enfin, même si on écrit bien, quand on écrit des textes très précis, il y a un jargon inévitablement qui se fourre là-dedans. Donc je craignais un petit peu cet effet, et qui existe déjà d'ailleurs, enfin que j'ai rencontré déjà dans les œuvres autobiographique ou même romanesque de certains théoriciens, par exemple. Alors donc, j'étais un peu méfiant. Heureusement, c'est un petit livre. Il est bien présenté. Je l'ai ouvert et j'ai été véritablement délivré de tous mes soucis. Je peux même dire que j'étais enchanté. Enchanté, du reste, un petit peu dans la terreur parfois, parce que ce que raconte Sarah Kaufman sur son enfance n'est pas toujours très gai, mais enchanté parce que c'est un livre, justement, sans rien de ce pédantisme, de cette cuistrerie que les philosophes, lorsqu'ils écrivent leur propre vie ou un récit, risquent parfois de transporter avec eux. Je ne donnerai, je pense, qu'une seule lecture de ce livre, un petit passage, c'est le début même du livre, parce qu'il est très beau, il est très émouvant, et il me permettra de poser tout de suite une question importante à la fin. De lui, il s'agit de votre père, hein, de votre père qui a disparu, vous aviez l'âge de...
7 ans et demi.
Bon, de lui, c'est l'ouverture du livre, de lui il me reste seulement le stylo. Je l'ai pris un jour dans le sac de ma mère, où elle le gardait avec d'autres souvenirs de mon père. Un stylo comme l'on n'en fait plus, et qu'il fallait remplir avec de l'encre. Je m'en suis servi pendant toute ma scolarité. Il m'a lâché avant que je puisse me décider à l'abandonner. Je le possède toujours, rafistolé avec du scotch. Il est devant mes yeux sur ma table de travail et il me contraint à écrire. Alors c'est vraiment très très beau, effectivement vous écrivez, et encore une fois, tant mieux que vous écriviez. Vous ajoutez à ce passage, que je trouve irréprochable, trois lignes, mes nombreux livres ont peut-être été des voies de traverse obligées pour parvenir à raconter ça. Alors là, je me contredis un petit peu, tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait absolument aucun relent de psychanalyse ou de philosophie dans votre ouvrage, dans vos mémoires, oui. Là évidemment, il y a une espèce de clin d'œil psychanalytique et une manière de dire, attention, je vais être très simple, mais quand même, je connais la musique.
Oui, en fait, c'était pas du tout volontaire. Enfin,
Dans la psychanalyse, on n'est jamais volontaire.
Non, hein. J'ai absolument pas pensé à ça en écrivant les quelques lignes finales.
C'est entre guillemets. Attention.
Ça. Ouais, oui, mais justement, c'était le ça ici. Alors justement, bon, je vais vous dire. Bon, d'abord, j'étais pas du tout consciente ici d'une cuisterie, une pédanterie. Je pensais absolument pas. Mais j'étais un peu gênée, puisque sur la quatrième de couverture, j'ai repris ce passage que vous avez lu, mais en supprimant les quelques lignes. Donc, il y a quand même quelque chose. Mais quand j'ai mis tous mes autres livres pour essayer de raconter ça, j'ai mis ça entre guillemets, parce que ça, non pas par référence au ça des psychanalystes, parce que ce que je raconte n'a rien de psychanalytique.
Non.
Mais ça, c'est-à-dire, je trouve, il n'y a pas de mot pour le dire.
Oui, cette chose.
M'est arrivé. Et donc, ce n'était absolument pas un clin d'œil. Ce que je veux dire, bon, quand j'écris mes 27 livres, ici, ce n'était pas non plus la cuistrerie, dire, vous voyez, je suis Sarah Kaufman.
Non.
Mais c'était, en fait, parce que ce stylo de mon père, qui a été si important, bon, parce que c'est vrai ce que je dis, c'est-à-dire que j'ai vraiment écrit pendant toute ma période de lycée, de primaire et de lycée avec lui, enfin de lycée surtout, parce qu'en primaire, on écrit avec la plume encore. Mais c'est que pour moi, ces 27 livres, je tenais à souligner quand même que de ce stylo de mon père, j'ai fait quelque chose. Et que toute cette œuvre théorique que j'ai faite, c'est dans une certaine mesure la continuation de la vie de mon père.
Je comprends très bien.
Et alors, c'est pour ça que je l'ai mis. Et alors, je veux dire, ce stylo qui n'a plus de propriétaire, puisque, bon, mon père, elle lui appartenait, il avait été pris par ma mère. Et c'est moi qui, un jour, l'ai pris pour, sans lui demander. J'ai dit, ça doit être à moi, c'est à moi ce stylo, c'est à moi. Bon, sans me faire tout un blablabla, que je devrais en faire quelque chose, mais c'est ça que ça voulait dire. Et donc, j'en ai fait quelque chose, si vous voulez, on aurait pu raconter comme une histoire un peu fantastique à la Gogol, qu'il y a un stylo qui quitte son propriétaire, vous savez, comme le nez quitte le Gogol, et puis qui continue à vivre sur d'autres.
Là, c'est parfait, c'est très bien. Simplement, ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est que ni Sophocle, ni Eschyle, ni Shakespeare n'ont jamais parlé de psychanalyse, mais ils ont fabriqué la psychanalyse. Oui. Ils n'en avaient pas besoin. Oui. De parler de ça.
Oui.
Bon, c'est peut-être dans leur œuvre qu'on a trouvé le ça, mais enfin, il n'en avait pas besoin. C'est tout ce que je voulais dire.
Mais moi, je veux dire que mon ça,
encore une fois,
n'est pas celui de la psychanalyse.
D'accord. Comme ces écarts de langage, si vous me permettez l'expression, sont très rares, il y en a deux autres qui me choquent moins parce qu'ils sont très francs, très loyaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous parlez du rêve célèbre de Léonard Vinci, de Freud, de Léonard Vinci, Hitchcock, il y a un petit peu de psychanalyse, mais enfin, peu importe. Alors, nous abandonnons cette rubrique et nous pénétrons dans cette vie d'enfant, donc, qui est évidemment frappée dès le départ, à 7 ans et demi, par un événement incroyable. Alors, je dis très rapidement, la situation et le décor, votre père est rabbin, il est polonais, il est rabbin, il ne parle pas français, il parle yiddish, on parle yiddish chez vous, un petit peu hébreu. Et dans votre appartement, qui est rue Ordonnère, dans votre appartement, il y a une pièce. Alors ça, c'est la pièce secrète, la pièce sacrée, oui, dans laquelle votre père reçoit des gens, se consacre à certaines cérémonies, etc. Bon. Et ça, c'est le décor initial. Et puis, il y a l'événement augural.
Cet événement augural qui est le jour du 16 juillet, c'est-à-dire de 1942, la rafle du Veldiv, quand on est venu chercher mon père, et mon père savait très bien qu'on allait venir le chercher. Il y avait eu des bruits de rafle le matin, il était parti toute la matinée prévenir tous les juifs de sa synagogue d'aller se planquer parce qu'il allait avoir des rafles que les juifs allaient ramasser, et il était revenu à la maison. Et il était 14 de l'après-midi, je me souviens très bien, et donc personne n'était encore passé. Bon, mon père était là, et je revois donc...
Vous saviez quelque chose,
mon père nous avait dit.
Oui.
Bon. Et surtout, la dernière vision que j'ai de mon père, c'est que dès qu'il est rentré, après avoir prévenu tous les juifs de sa synagogue, il s'était mis dans cette pièce, justement, religieuse, sacrée, etc. Et il s'était mis en attitude de prière, et il priait Dieu en yiddish, je me souviens des paroles yiddish qu'il disait, moi je vous le dis en français, mais il disait « Oh mon Dieu, qu'on me prenne moi, mais pourvu que ma femme et mes enfants soient sauvés ». Alors c'était terrible, c'était absolument terrible, et ensuite après avoir fait cette prière, mon père s'était allongé dans une pièce, il était fatigué. Et donc, à ce moment-là, il y a un flic, on a sonné, c'était un flic qu'on connaissait d'ailleurs, c'était le flic de la circulation, celui qui faisait la circulation en bas de la rue, qui est arrivé, l'air gêné, parce qu'il nous connaissait déjà de vue, etc. Il a dit, monsieur le rabbin Kaufmann, comme ça, très poli. Ça n'avait rien de la violence qu'il y a eu un an après, quand on est venu nous chercher.
Oui.
Là, c'était, monsieur le rabbin Kaufmann. Alors, c'est ma mère qui avait ouvert, et elle dit, non, il n'est pas là, il était à la synagogue. Ce qui était très plausible, puisqu'il était tout le temps.
Oui.
Et mon père est sorti de la chambre, il a dit non, je suis là, prenez-moi. Parce qu'il avait peur. Il avait peur qu'on nous prenne, parce que c'était le cas.
Et votre mère a essayé une tentative de diversion.
Oui,
hein,
une tentative de diversion. Elle a dit, je suis enceinte, etc. J'ai un enfant dans les bras. Là, il venait juste d'avoir 2 ans. C'était pas de chance, parce qu'à l'époque, on ne prenait pas encore les pères qui avaient des enfants de moins de 2 ans. Alors, mon frère Jacques était né le 14 juillet, et on est venu le 16 juillet. Et alors, c'est à ce moment-là que ma mère a tendu le ventre en avant en disant, oui, mais je suis aussi... enceinte, c'était faux, mais elle était grosse et elle était comme ça. Et c'est à ce moment-là, le flic était gêné, il a dit, moi je peux rien faire, je peux pas décider, venez avec moi au poste de police de vous expliquer. Donc et il est parti
jamais,
avec ma mère.
Il n'est jamais revenu.
Il n'est jamais revenu.
C'est ça. Et il y avait 6 enfants à la maison.
6 enfants, là on s'est retrouvés d'un seul coup dehors, puisque ma mère a été accompagnée, on a pleuré,
c'était horrible. Alors vous êtes retrouvés dehors tous.
Tous, et moi j'ai eu une certitude, alors je sais pas comment les autres, ce qu'ils ont éprouvé, sauf qu'on pleurait vraiment tous dans les rues, on accrochait les uns aux autres, on faisait un groupe compact. Et on hurlait dans la rue, papa, 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 papa. Et moi, j'avais la certitude que jamais je le... On n'était plus qu'un seul cri. Un seul cri et qui est pour moi... Alors par la suite, quand j'étais en quatrième et que j'ai commencé à lire le grec, j'ai trouvé opopoi, opopoi, opopoi dans les tragédies grecques, je me sentais mal à l'aise, j'étais gênée. Et c'est que maintenant, en écrivant ce texte, je me suis rendu compte qu'au fond, ça devait m'évoquer cette scène d'enfance où on criait tous « papa, papa, oh papa, oh papa ».
Bien, et ensuite alors commence une existence qui est évidemment terrible. D'une part, il y a ce trou gigantesque de l'absence de votre père, parce que vous dites tout de suite, j'ai compris que ce serait sans retour. Et après, vous avez eu confirmation beaucoup plus tard.
Oui, alors c'est après la guerre, simplement, au moment où les gens ont commencé à revenir. Donc on a vu que mon père ne revenait pas et on a fini par recevoir
un avis.
Un avis de qu'il était mort à Auschwitz.
Mais pendant la guerre, vous n'avez rien
rien, 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 rien. Sauf la carte de Drancy. Au moment de Drancy, dont je parle, une carte qui m'a énormément émue, puisque c'était la seule, c'était le dernier reste de...
Il demandait des cigarettes.
Oui. C'est ça. Mon père fumait énormément et ne supportait pas de ne pas fumer. Alors le sabbat, bon, les juifs n'ont pas le droit de fumer, c'était la grande privation. Et je me souviens, moi qui étais très sensible donc, à tout ce qui arrivait à mon père, on regardait les trois étoiles du samedi soir qui indiquent la fin du sabbat pour immédiatement voir mon père allumer la cigarette. Mais c'était pour moi comme ça au niveau du souvenir intéressant, c'est que alors que mon père, donc je vais fumer tout le temps, je n'ai aucun souvenir de voir mon père fumer. Sauf que moi, j'allais lui acheter le papier zigzag. Donc c'est moi qui allais, j'étais fière, j'allais chercher au bureau de tabac. Bon, ça, c'est un truc positif. Mais sinon, je ne me souviens que des moments négatifs, c'est-à-dire les moments où il en était privé. Et alors, quand il a écrit aux Juifs, parce qu'il avait le droit de recevoir des paquets de 2 kilos. Donc en général, c'était « envoie-moi des gamelles, et puis les gens envoyaient de la nourriture, du sucre, etc. » Et lui a dit « non, envoie pas de nourriture, mais envoie-moi des cigarettes, des gauloises, etc. Ou des bleus, ou des verts. » Et je veux dire que quand je repense à ça, ça m'a énormément émue, parce que j'avais tellement, moi, vécu la souffrance de mon père le jour du sabbat, quand il ne pouvait pas fumer, que je me suis dit, pour lui, c'était horrible. Et c'était extrêmement émouvant.
Et après, par un témoignage, vous avez sans doute il avait été tué par un capot,
après,
qui était un
juif. Au retour de la guerre, quelqu'un racontait. Alors, est-ce fiable ou pas? Bon, on y a cru, enfin, quand même, et puis la personne est revenue plusieurs fois là-dessus.
Il a été massacré
par un juif, parce qu'il continuait à prier le jour du sabbat en disant je fais aucun mal, je prie pour vous, etc. Et le juif qui était un capot l'a descendu et lui a arraché il voulait absolument lui arracher son livre de prière qu'il avait conservé sur lui, un tout petit livre très plat qu'il avait emmené qui avait résisté, qu'on lui avait laissé à Auschwitz.
Ça paraît incroyable. Oui. Bien, donc vous vous retrouvez, 6 enfants, tous assez petits quand même.
Entre 2 ans et 12 ans.
Oui, votre mère qui n'a pas beaucoup d'argent, qui est juive, qui est repérée donc, et ça va encore durer 2-3 ans, et même après la guerre, ça ne sera pas tellement simple non plus. Alors là, vous avez beaucoup d'aventures, d'appartement finalement.
C'est d'errance. C'est-à-dire que après la guerre, comme ça, enfin, quand on a eu pris mon père, on savait qu'on allait venir un jour ou l'autre chercher les autres personnes. Donc les organismes communistes en particulier, là, moi je suis assez reconnaissante, on dit souvent parler des mal du communisme, moi je me souviens toujours que ce sont des organismes communistes juifs qui sont venus pour avertir les gens, il faut vous planquer, il faut vous cacher, ils faisaient des fausses cartes d'alimentation, etc. Et donc ma mère nous avait cachés tous à la campagne, les uns par là, les autres ailleurs, les tous cachés dans ces divers endroits. Elle ne pouvait pas partir parce qu'elle ne savait pas un mot de français. Elle aurait été repérée tout de suite comme juive. Mais nous, on parlait tous français à l'époque et on avait tous appris le français à l'école. Et avec des faux noms, des faux papiers, on avait été passés dans l'heure chez des paysans qui ignoraient qu'on était juifs.
Oui. Bon.
Alors, moi, mon histoire commence à singulariser par rapport à celle de mes frères et sœurs. C'est que dans ce Merville, qui est donc un village dans l'heure, chez les paysans, je refusais de manger le porc parce que d'une part, j'étais très attachée à cette nourriture cachère, puisque j'étais très attachée à mon père et à tous les interdits religieux qui étaient vraiment énormes à la maison. Enfin, on vivait dans la terreur de faire une faute à ce niveau-là. Donc, je ne voulais pas manger le porc, donc je refusais la nourriture. Et ma sœur Rachel, qui avait quand même 12 ans à l'époque, qui se rendait compte de la situation, avait écrit à ma mère, il faut que tu la reprennes, parce que sinon, c'est d'ailleurs dangereux, parce que si la lettre avait été ouverte, si tu la reprennes, parce que tout le monde va savoir qu'on est juif. Enfin, il se trouve que la lettre ne semble pas avoir été ouverte, bon. Et donc, j'ai été reprise par ma mère. Mais je sentais bien dans mon histoire, je sentais même à cette époque-là, mais sans me le formuler comme maintenant, que j'avais mis en avant cette histoire de cache-route, enfin de manger la nourriture cachère que je ne pouvais pas supporter autrement, parce qu'en fait, je ne pouvais pas supporter la séparation avec ma mère.
Oui.
Et donc, il fallait que ma mère me reprenne. Ma mère m'a repris à cette occasion.
La séparation d'avec votre mère, mais d'avec personne, enfin, de votre famille. Hein. Vous étiez très collante.
Oui,
comme
mais là, j'étais cachée avec mes frères et sœurs, là.
Ah oui, là vous étiez cachée avec votre mère. Moi, je veux dire, d'une façon générale, vous ne vouliez pas
là,
la solitude.
Je ne pouvais pas supporter d'être seule.
C'est ça.
Mais là, j'étais cachée avec une sœur et un frère.
Donc,
et je n'ai pas pu dans cette
hypothèse
avec ma mère. Je retourne à Paris, alors en plein danger, donc en plein 18e. Et donc mes frères et sœurs continuent à être cachés à la campagne. Et donc je vis désormais seule avec ma mère, dans l'appartement de la rue Ordonnaire.
Vous allez à l'école?
Oui, je continue à aller à l'école, oui. Jusqu'à ce qu'un jour, justement, à 8h du soir, quelqu'un tape à la porte, mais un homme, hein, et c'est sur le pas, il n'est même pas rentré, il a dit, allez-vous planquer, vous êtes sur la liste pour ce soir, vous et vos 6 enfants. Alors là, on avait quasi la certitude que c'était pour nous. Bon, alors nous, on ne savait pas où aller, mais ma mère se souvenait d'une femme comme ça, chez laquelle on allait quand il y avait des bruits de rafles, qui était une ancienne voisine quand ma mère habitait rue des Poissonniers, et qui nous avait repérés comme étant des beaux enfants, blonds, chahuteurs, enfin bon, vous savez, on remarque les enfants, non, etc. Et qui nous aimait comme beaux enfants, elle demandait aux nouvelles de ma mère, elle m'a dit, on va aller chez elle. Alors on a eu la chance, on est parti, donc, et elle nous a gardés pour la nuit, elle nous a pris tout de suite. Mais en principe, c'était que pour la nuit, quoi. Mmh. Là, on a fait la bêtise, on est revenu le lendemain matin, on a fait une bêtise parce que ça aurait pu être grave.
Oui.
Et on a trouvé les scellés sur la porte, et c'était effectivement, ils étaient passés, et donc la concierge nous a dit qu'ils avaient... Ils avaient jeté tous les meubles par la fenêtre.
Alors vous êtes resté chez la dame en question.
Et après, on est resté chez cette
dame. Pas tous.
Ben non, ma mère et moi. Tous les autres étaient restés à la campagne.
Tous les autres étaient dans l'heure, oui.
Oui.
Alors c'est cette dame que vous appelez Mémé.
Oui, et que j'appelle, c'est la dame de la rue là-bas.
La dame de la rue là-bas, alors qui joue un rôle très très important dans votre salut, dans votre sauvegarde, sur votre survie, parce que sans doute sans ça, en effet, tout était perdu, mais aussi dans votre évolution.
Oui, alors énorme. C'est-à-dire que, je saute les péripéties, parce qu'en fait, elle n'a pas voulu nous garder d'abord, parce que c'était très, très dangereux. C'était en plein quartier juif. Il y avait des descentes de police tous les soirs, donc on était déjà dans ce climat de terreur. Mais moi, je voulais rester donc nulle part, donc pour passer les détails. Donc, je me retrouve chez elle en présence de ma mère, ce qui, en principe, aurait dû me satisfaire. Mais peu à peu, comme ma mère ne parlait pas le français du tout, et que pour elle, c'était extrêmement dangereux de descendre dans la rue, parce qu'on lui demandait des papiers, cette femme a dit que c'est elle qui allait s'occuper de moi, qu'il fallait que je prenne l'air, donc il fallait que je sorte, moi. Donc, comme je n'allais plus à l'école, à partir du moment où j'étais recherchée, ça aurait été dangereux d'aller à l'école, donc je n'allais plus à l'école, et je ne pouvais pas rester enfermée avec ma mère tout le temps, donc elle s'est occupée de moi comme sa fille. Et en plus, comme elle était extrêmement intelligente, extrêmement cultivée, très jolie, très gaie, très musicienne, enfin, elle avait énormément, je trouvais énormément de choses que je n'avais pas trouvées dans mon milieu familial. Il y avait une grande bibliothèque, parce que moi j'étais très très affamée de livres déjà avant, mais comme nous n'avions pas un sou, je prenais juste les livres de la bibliothèque de l'école.
À l'époque, vous aviez de bonnes lectures hein, d'ailleurs, ça n'était pas Freud encore,
ni Nietzsche, c'était les mises avant.
Bibi Fricotin et les pieds nickelés. Alors
les pieds nickelés, les Bico.
Voilà, alors Bico. Ça, je suis persuadé que c'est grâce aux pieds nickelés et à Bico que ce livre est aussi remarquable, mais j'en suis sûr. Hein.
Oui, Bico surtout, c'était Madame Fagnard, cette institutrice que j'ai adorée, elle nous donnait Bico, nous adorions Bico, les Bico.
À tel point que vous étiez en train de lire, vous êtes tombé dans la cheminée, vous n'en êtes pas rendu compte.
Oui, oui.
C'est comme ça que commence l'évocation.
Oui, donc j'étais très prise par les livres. Alors d'un seul coup... Bah,
d'ailleurs, je pense que ça vous a sauvé aussi, hein, avec la dame qui s'appelle Mémé, il y a aussi les livres qui vous ont sauvé. Bibi Fricotin, là, a fait une belle action quand même.
Oui, mais enfin, vous savez, quand j'étais cachée à un moment donné à l'hôpital Côte-Bernard, les infirmières m'avaient donné les pieds nickelés. Justement, je ne sais plus quelle autre, justement, bande dessinée. Mais ça a duré 3 jours. J'ai pu être séparée de ma mère pendant 3 jours parce que j'ai lu ça. Mais une fois que j'ai eu terminé les livres, il a fallu que je revienne chez ma mère.
Bien, alors terminons, parce que malheureusement, nous n'avons pas trop de temps. Oui. Terminons tout de même sur cette espèce d'entrecroisement qui s'est produit entre votre mère, la position de votre mère et la position de Mémé. Il y a au fond un investissement très très fort de votre part sur Mémé. Et presque, d'ailleurs il y a un épisode, enfin on ne peut pas trop raconter, on n'a pas le temps, vous devez poster 2 cartes postales, et c'est d'abord celle de Mémé que vous postez, c'est quelque chose de cet ordre.
C'est-à-dire c'est le jour de la fête des mères, d'un seul coup, je fais comme si déjà c'était ma mère aussi, puisque je me dis, il faut que j'achète une carte postale pour toutes les deux.
Oui, oui.
Et je choisis dans une boutique 2 cartes, Et je donne celle que moi je trouve la plus belle à Mémé. C'est là que je me suis aperçue qu'il y avait un détachement et que j'étais passée de l'autre côté. Et de l'autre côté, ça voulait dire aussi, c'est pour ça que ces deux noms de rue, rue Ordinaire, rue là-bas, ça résume toute ma vie en fait. Parce que c'est rue Ordinaire, c'est la rue ordinaire aussi de mon enfant. Rue là-bas, c'est là-bas, c'est un autre monde. C'est vraiment,
attention, hein, nous sommes chez Lacan, là, attention.
C'était vraiment un passage absolu entre d'une culture à une autre, d'une langue à une autre, une transformation complète. Et je me suis retrouvée d'un seul coup ne pouvant plus parler yiddish, plus parler
un mot. Et puis, de plus en plus. Un transfert de culture, enfin.
Total.
Et même de sentiments aussi sur Mémé.
Oui, surtout, très très fort.
Qui n'aimait pas trop la culture juive, j'ai l'impression. Elle vous disait, au fond, tout ça,
c'est-à-dire, elle avait un petit peu les préjugés de l'époque. Elle m'a dit, tu as un nez juif, regarde tout ce que tu as une bonne.
Même, elle est d'autant plus admirable qu'elle était un petit peu antisémite, enfin. Oui. Et d'ailleurs, je dis ça très très rapidement parce que je crois que c'est important de le rappeler, par votre expérience propre, c'est que parmi vos institutrices, parmi certaines de vos camarades aussi, qui savaient toutes que vous étiez juive, il y a eu des gens, des Français, donc non-juifs, des gens absolument admirables.
Hein, absolument admirables.
Qui vous ont aidés, qui vous ont aimés, peut-être plus encore que vous n'ayez pas été juive. Bien, alors, je voudrais élaguer, écourter, parce qu'il y a beaucoup d'autres péripéties dans ce livre, bien qu'il soit mince, je l'ai dit au début, mais comme la langue est très rapide, il se passe tout de même beaucoup de choses. Ça nous conduit d'ailleurs jusqu'à la fin de la guerre, et même dans les premiers moments de l'après-guerre, parce que votre vie n'a pas été très simple. En tout cas, ce qui vous a sauvé, nous l'avions dit, c'est la lecture, c'est le goût de l'étude. Vous étiez une très très bonne élève, et votre mère n'y tenait pas tellement, mais les institutrices, justement, là aussi, ont joué un rôle très positif. Je voudrais vous poser tout de même deux questions, alors plus générales. D'une part, on ne sait pas ce qui se passe en ce qui concerne votre mère et Mémé ensuite, après la fin du livre. Est-ce qu'il y a eu des accommodements, un changement, est-ce que vous êtes revenu voir votre mère ou bien peu?
Non, c'est-à-dire que, donc, à la fin de la guerre, il y a eu un jugement d'un tribunal, ça a été une scène absolument atroce pour
FFI,
moi.
Oui,
et qui a été en faveur de Mémé, parce que c'est moi qui ai fortement insisté, bon, pour y être. Mais en même temps, ma mère est venue me chercher immédiatement et j'étais soulagée, en fait, de retourner chez ma mère. Mais en même temps, j'ai eu une vraie passion pour cette femme de la rue là-bas. J'étais vraiment vécu une grande, grande passion et c'était brutalement, d'un seul coup, je me retrouvais sans elle. Et ma mère, évidemment, ne supportait absolument pas cet attachement. D'autant plus que l'autre femme tenait des discours du style « Vous avez 6 enfants, vous pouvez bien m'en laisser une ».
Oui, c'est ça.
C'était ce type de discours.
Alors, ma mère supportait pas. En plus, elle avait une moralité qui n'était pas aussi stricte que celle
de
votre
ma mère. Oui. Donc, ma mère ne supportait pas ça. Et donc, elle a tout fait pour me séparer d'elle. C'est-à-dire qu'après la guerre, j'étais d'ailleurs séparée pendant un an. Et puis ensuite, elle m'a mis dans des maisons d'enfants, loin de Paris. Comme ça, j'ai passé un an en Daï. D'abord, j'étais malade de santé, dans un préventorium. Et puis après 5 ans, dans une maison juive à Moissac, pour renouer avec le judaïsme et pour me couper de cette femme.
Alors, c'est la deuxième partie de ma question. Le judaïsme, donc, vous le laissez, vous le rejetez même, vous mangez des bons beefsteaks, etc., au moment de l'emprise de Mémé.
Oui.
Et puis, ensuite,
Qu'en est-il,
justement. On peut d'ailleurs préciser à ce sujet que dans la même collection, chez le même éditeur Galilée, paraît en ce moment un autre livre de vous, qui est également un petit livre, Le mépris des Juifs. Le mépris des Juifs, alors c'est Nietzsche et les Juifs. Hein,
oui.
Donc, mais très rapidement, sans entrer peut-être dans le détail de ce livre, très rapidement, en ce qui vous concerne, vous, est-ce que plus tard, vous êtes revenu soit à la religion juive, soit à la culture juive?
C'est-à-dire la période où j'étais à Moissac, c'est-à-dire entre mon âge entre 12 ans et 17 ans, j'ai renoué dans cette maison juive avec le judaïsme. J'ai réappris l'hébreu, j'ai refaisais toutes les prières, je faisais tous les jeûnes et j'étais devenue tout à fait de nouveau comme dans ma famille.
Volontairement.
Pendant 5 ans, complètement.
Oui.
Après un an de résistance,
oui.
Mais sous l'effet d'un chef juif, comme ça passe toujours par un transfert, j'ai renoué complètement. Et puis, ensuite, à la fin de la seconde, je suis retournée chez ma mère, puisque cette maison où j'étais à Moissac n'a plus existé. Et ma mère m'a repris donc, pour la première et la terminale. Et là, ça a été dans des conditions matérielles absolument épouvantables. Et puis, j'étais la seule de ma famille à aller au lycée à moi. Malgré ma mère, j'ai eu une vie absolument épouvantable.
Toujours à Paris.
À Paris, dans l'impasse d'angoisse. On nous avait relogés après la guerre. Mais on est resté jusqu'en 1957, sans eau courante, sans l'eau était dans la cour, dans l'évier, vous voyez. Dans un... Bon, enfin, absolument épouvantable. Puis on était 6 dans 2 pièces, il y avait pas de... c'était épouvantable. Et moi, j'ai mené quand même, je faisais tous mes devoirs et tout dans un chahut épouvantable, pas chauffé, enfin rien, les conditions, la lumière coupée tôt. J'étais quand même prix d'excellence, etc. Donc c'est-à-dire que je suis arrivée quand même à travailler comme il faut. Mais j'étais tellement peu aidée par mon milieu familial et tout, que c'est là, plus le fait que j'ai fait ma terminale, c'est-à-dire la classe de philosophie, qui fait qu'à ce moment-là, j'ai rompu totalement avec le judaïsme et je ne suis plus jamais revenue.
Plus
jamais revenue au judaïsme. Et avec ma mère, qui est morte en 1974, donc de maladie relativement tardivement, j'ai toujours eu des rapports difficiles et j'allais la voir, mais si vous voulez, malgré moi, et toujours me défendant.
Oui, Sarah Koffman, vous avez rompu avec le judaïsme en tant que religion.
Que religion, mais pas en tant que
culture.
Non, je suis restée en même temps très attachée. Très, très attachée. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout convertie à autre chose. Mais d'abord, même au point de vue religieux, je ne me suis jamais convertie au christianisme, bien que j'ai eu une tentation. Quand j'étais étudiante, j'avais été très excellente prise de la cité universitaire d'un certain groupe catholique. Et j'étais très tentée. Mais là, il y a quelque chose qui résistait en moi de façon absolue. C'était impossible. Et même maintenant, je dirais que ce serait impossible de me convertir. Par contre, alors, j'étais toujours très restée attachée à la culture, aux chants juifs. Parce que je chantais très bien. Enfin, j'aimais beaucoup chanter. Je continue à chanter des chants juifs spontanément, des chants hébreux. Et tout ce qui concerne les juifs m'intéresse énormément. Je me sans juive, si vous voulez, beaucoup plus que française.
Et vous ne sentez pas
mais
quand même,
par la religion,
vous
même pas
amputé
par
d'une certaine manière de la culture juive, puisque vous parliez yiddish couramment, vous parliez hébreu aussi, aujourd'hui vous parlez français et peut-être comprenez-vous le yiddish ou le lisez-vous, mais vous ne le parlez plus.
Je ne parle plus parce que je ne peux plus le parler, mais je le comprends parfaitement. Et quand je vois un film en yiddish, je suis aux anges. Parce que depuis que ma mère est morte, je n'entends plus parler, je veux dire. Je suis absolument heureuse. Et puis je trouve alors de plus en plus cette langue, une langue affective. Je retrouve le milieu familial, quoi. Je retrouve la chaleur familiale. Cette langue est une langue...
Vous pouvez tout de même extraire cette chaleur familiale et le souvenir de votre père de la religion juive. Parce que votre père, c'était la religion même.
Je suis totalement athée. Je suis totalement athée. C'est la voie du livre, la culture, la philosophie en particulier. Bien que je sois devenue philosophe peut-être aussi, parce que j'ai appris très tôt avec cette double histoire, la relativité des valeurs. Et donc, je suis devenue philosophe. Et pour moi, on ne peut pas être philosophe et croyant en Dieu.
Bien, je vous remercie, Sarah Koffman. Je rappelle le titre de ce très beau livre, rue très émouvant aussi, et littérairement, je l'ai déjà dit, mais tout à fait réussi, rue Ordinaire, rue Là-bas, publié chez Galilée. L'autre livre dont nous avons dit un mot à peine, Le mépris des Juifs, également chez Galilée. Pour les têtes plus philosophiques, je cite aussi, toujours chez Galilée, d'ailleurs vous êtes très fidèle, deux gros livres consacrés à Ecce Homo de Nietzsche. L'un s'appelle Explosion 1 et l'autre Explosion 2. C'était Agora, chargé de réalisation Michel Prudhon, prise de son Bruno Niewanski. Lundi, je reçois Jean-Paul Savignac pour son livre « Merde à César », plus précisément « Les Gaulois, leurs écrits retrouvés ». Thank you.
Thank you.